RFI Midi, toute l'actualité, Jean-Baptiste Marot.
Et retour à présent sur la situation au Soudan depuis la dispersion du sit-in des manifestants devant le QG de l'armée lundi. Le bilan des violences ne cesse de s'alourdir. Il est passé ce matin à 60 morts selon le comité des médecins proche de la société civile qui parle d'un véritable massacre. Cette organisation pointe aussi la responsabilité plus particulière de milices, membres du conseil militaire au pouvoir à Khartoum. Des accusations graves qui posent bien sûr la question de la composition de l'armée soudanaise aujourd'hui. Alors pour tenter d'y voir plus clair, nous sommes en ligne avec Marc Goutalier, bonjour.
Bonjour.
Marc Goutalier, vous êtes politologue, consultant à l'Observatoire des pays arabes. Vous avez également écrit l'ouvrage qui s'intitule « Quand le printemps brouille les cartes, une histoire stratégique des frontières arabes ». Il est paru, cet ouvrage, aux éditions Le Félin en février 2017. Alors, première question, Marc Goutalier. Est-ce que vous pouvez nous dire qui sont les fameux FSR, les forces de soutien rapide, qui ont en grande partie mené la répression du sit-in de lundi et qui sont pointé du doigt donc par les manifestants au Soudan.
Il s'agit d'un groupe paramilitaire composé de plusieurs dizaines de milliers d'hommes, pense-t-on, et qui est probablement aujourd'hui la force de sécurité la plus importante au Soudan. Et c'est l'héritière des tristement célèbres Janjaweed qui avait opéré il y a 15 ans déjà au Darfour des atrocités.
Marc Goutalier, ça veut dire que l'armée soudanaise aujourd'hui, ce sont d'abord et avant tout des milices ? Quel est leur poids aujourd'hui parmi les soldats ?
C'est-à-dire que Omar al-Béchir était issu de l'armée, il avait créé des milices pour contrebalancer le poids de l'armée, parce qu'il se doutait bien que l'armée pouvait se retourner contre lui. Et donc maintenant, il y a plusieurs groupes paramilitaires qui cohabitent avec l'armée. Et l'armée n'est pas forcément, comme je le disais, la force la plus importante aujourd'hui sur ce plan. Mais il y a un peu un système de gentils flics, méchants flics qui s'est imposé. Finalement, les milices font le sale boulot que l'armée pour l'instant ne veut pas faire. C'est un peu la même chose aussi qu'on retrouve à la tête de la junte. Vous avez deux têtes, et la tête principale, en réalité, c'est d'une certaine manière, représente l'armée. Il présente le visage plutôt avenant, enfin censé être avenant du nouveau régime, mais la réalité du pouvoir est plutôt entre les mains des milices derrière.
Et elles sont représentées parmi les chefs au plus haut niveau, ces milices Janjaweed, ces FSR ?
Oui, mais justement, leur patron, qui est surnommé Hamdi, c'est Mohamed Hamdan Daglo, il est Darfouri, et c'est en réalité l'homme fort aujourd'hui du Soudan, et il est fatalement derrière ce qui s'est passé depuis ces deux derniers jours. C'est un homme qui s'était rendu célèbre par des crimes de guerre, il s'agit bien de ça, au Darfour depuis plusieurs années. Et ce sont aujourd'hui les horreurs du Darfour qui se sont invitées à Khartoum, dans la capitale elle-même.
Quelle est leur marge de manœuvre à ces FSR au sein de l'armée ? Ils agissent un peu comme des électrons libres ou bien ils sont quand même soumis à la hiérarchie ?
En partie, oui, en partie en électron libre, parce que Omar al-Béchir, donc, comme je vous disais, a fait exprès de créer plein de groupes paramilitaires pour neutraliser d'une certaine manière toute menace contre son pouvoir. Il y a réussi. Et aujourd'hui, lui qui faisait l'unité de l'ensemble est en partie, les divisions vont probablement être de plus en plus importantes. Donc, ce qui s'est produit depuis deux jours n'est certainement pas approuvé par tout le monde au sein de la junte. Qui aura des répercussions dans les jours et les semaines à venir.
Alors on va y venir dans un instant, mais une question encore à propos de ces milices. L'armée traditionnelle, les militaires traditionnels, ils peuvent encore reprendre la main ou c'est trop tard ?
Mon sentiment, c'est que si l'opposition parvient à tenir encore, il est possible qu'une partie des forces armées qui est hostile à tant de violence, parce que les hommes de la troupe sont souvent proches des gens qui manifestent, il est possible qu'elle bascule en faveur de l'opposition. Et dans ce cas-là, ce serait un engrenage dangereux qui serait celui de la guerre civile dans un pays qui en a connu déjà beaucoup.
Alors, vous commenciez à le dire, des divisions peut-être au sein même de l'armée. Ce qui s'est passé ce matin, ce revirement du Conseil militaire de transition qui, après avoir annoncé l'annulation des accords passés avec la société civile et des élections dans 9 mois, fait machine arrière finalement. Aujourd'hui, les généraux se disent désormais ouverts à des négociations sans restriction. C'est effectivement une illustration de ces divergences de vues, de ces divisions au sein de la Grande Muette au Soudan ?
Oui, je le pense. Bon, après, il faut replacer dans son contexte. On est le jour de l'Aïd el-Fitr. Donc il faut être généreux, il faut être ouvert envers son prochain, etc. Donc, on est toujours dans la logique gentil flic, méchant flic. Donc, c'est Al-Burhan, le patron de la junte, qui représente l'armée, qui tend un rameau d'olivier aux opposants, aux manifestants. Mais les manifestants comprennent bien qu'après ce qui s'est passé, le massacre est tel. On en parle de 60 morts, mais il est possible que le bilan continue de s'alourdir, qu'en réalité, aucun dialogue n'est possible de toute façon et que la junte, par ce massacre, a prouvé qu'elle n'avait aucunement l'intention de céder le pouvoir à une autorité civile. Même si ça devait être le cas, en réalité, le pouvoir resterait entre ses mains.
Alors, un mot encore cette fois du côté de la société civile qui se trouve face aux militaires. Elle aussi est assez divisée, non ?
Oui, tout à fait. Et l'un des espoirs de la junte, c'est d'attirer à elle, on va dire, les éléments modérés ou les partis politiques traditionnels comme le parti Al-Umma, mené par Sadiq al-Mahdi, qui est une figure historique, j'allais dire, du pays. Il était Premier ministre il y a 50 ans. Lui a été plutôt modéré dans le camp de l'opposition. Et d'ailleurs, son parti est le seul à ne pas s'être encore prononcé sur le massacre, comment réagir. Parce que, eh bien, il pourrait jouer les opportunistes et s'allier d'une certaine manière avec les militaires. Il avait dit déjà avant le massacre qu'il était prêt à des élections rapides, parce qu'évidemment, il pense que son parti, eh bien, sera bien placé pour les remporter. Donc, il y a cette frange-là traditionnaliste, on va dire, dans le paysage politique soudanais, qui pourrait se rallier un peu contrainte et forcée aussi, parce que vu l'ampleur de la terreur vu la stratégie de la terreur qui est maintenant adoptée par la junte, ça pourrait être le cas. Mais il y a, vous en avez parlé, cette société civile, cette jeunesse soudanaise qui s'est exprimée à plein depuis décembre dernier et qui a montré qu'elle aspirait véritablement à la démocratie, à pouvoir exprimer ses opinions, elle ne va pas se laisser faire aussi facilement. Donc, la junte, oui, va aussi, vous avez raison, essayer d'exploiter ses divisions, mais je pense que le massacre est peut-être allé trop loin d'une certaine manière et que donc là, tout le monde a bien compris que de toute façon, les militaires n'ont pas l'intention de céder le pouvoir. Donc, les négociations, c'est du vent.
Et on restera là-dessus. Merci beaucoup Marc Goutallier d'avoir répondu à nos questions à la mi-journée sur RFI. Je rappelle que vous êtes notamment l'auteur de l'ouvrage « Quand le printemps brouille les cartes, une histoire stratégique des frontières arabes ».